Bonjour, bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kallmann. Vladimir Poutine, réélu ce 17 mars pour 6 années supplémentaires à la tête de la Russie. L'Occident dénonce un scrutin faussé, les régimes autoritaires, Corée du Nord, Chine ou encore Cuba applaudissent. Poutine, lui, savoure et promet une Russie qui ne se laissera pas intimider. Paris a fini par réagir à l'élection de Vladimir Poutine. Le Quai d'Orsay a publié un communiqué ce lundi 18 mars, peu après 9h30. Les conditions d'une élection libre, pluraliste et démocratique n'ont une nouvelle fois pas été réunies. La France prend acte de la réélection de Vladimir Poutine et condamne l'organisation de prétendues élections dans les territoires ukrainiens temporairement occupés par la Russie. Mais ce que pense la France de la Russie, Vladimir Poutine semble ne pas vraiment s'en soucier. Au contraire.
Quiconque essaierait de nous faire peur, de supprimer notre volonté ou notre conscience, personne n'a pu réussir une telle chose.
Quand un journaliste demande au président russe fraîchement réélu si un conflit avec l'OTAN est possible, Vladimir Poutine prévient.
Je pense que tout est possible dans le monde moderne, mais je l'ai déjà dit, et il est clair pour tout le monde que ce conflit entre la Russie et l'OTAN ne sera qu'un pas vers une troisième guerre mondiale à grande échelle. Je ne pense pas que cela intéresse qui que ce soit.
Troisième guerre mondiale, le mot est lâché. Et ce n'est pas la première fois. Vladimir Poutine qui a directement adressé un message à la France et à Emmanuel Macron.
Et si quelqu'un veut couvrir les problèmes internes de son pays avec une rhétorique externe agressive, eh bien c'est une astuce bien connue et largement utilisée. J'aimerais que la France ne joue pas ce rôle qui ne fait qu'aggraver le conflit, mais qu'elle fasse plutôt quelque chose pour trouver des solutions pacifiques. La France pourrait jouer ce rôle, mais tout n'est pas encore perdu.
Sur BFM TV, ce dimanche 17 mars, le vice-président de la Douma, Piotr Tolstoï, évidemment pro-Poutine, a été beaucoup plus direct et menaçant. Voilà ce qu'il a dit si la France souhaitait s'engager un peu plus du côté de l'Ukraine.
Pour les Français, le rhétorique de Macron sur l'envoi des légions étrangères à Odessa, ça le prie hein, aussi, parce que quand ils vont revenir en cercueil couvert par le tricolore, je ne crois pas que les Français seront contents. Nous sommes bien au courant de la participation étrangère, ça nous ne fait pas peur, donc ça peut-être excite un peu l'opinion publique en France, mais ça va terminer par les cercueils à Orly, et je crois que pas Macron qui va les accueillir là-bas dans l'aéroport.
Les relations entre la France et la Russie n'ont en réalité jamais été cordiales, ou alors simplement de façade. Retour en 2017. Emmanuel Macron vient d'être élu président de la République et il accueille Vladimir Poutine à Versailles.
Emmanuel Macron, tout juste élu, veut montrer qu'il ne se laissera pas faire. Ce jour-là, il menace d'intervenir en Syrie si des armes chimiques sont découvertes et il recadre 2 médias russes, pro-Kremlin.
On va se dire les choses en vérité, mais Russia Today et Sputnik ne se sont pas comportés comme des organes de presse et des journalistes, mais ils se sont comportés comme des organes d'influence, de propagande et de propagande mensongère.
En avril 2018, Emmanuel Macron déclare ceci sur Fox News.
Nous ne devrions jamais nous montrer faibles face au président Poutine. Quand vous êtes faible, il s'en sert.
Le président français qui tente tout de même de rétablir le lien avec Vladimir Poutine.
Je crois pouvoir dire que Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui a une vision historique et stratégique des relations entre la Russie et l'Europe. Je place, moi, la relation avec Vladimir Poutine, et c'est ce que je lui ai dit hier, dans cette vision stratégique qui est que la Russie doit être arrimée à l'Europe. La Russie est européenne.
La Russie arrimée à l'Europe, dit Emmanuel Macron. Mais le 24 février 2022, l'armée russe envahit l'Ukraine et entame une guerre sanglante.
J'ai pris la décision de lancer une opération militaire spéciale.
En septembre 2022, Vladimir Poutine est très clair. La Russie ne livrera plus de pétrole ou de gaz aux pays qui plafonneraient les prix des hydrocarbures vendus par Moscou. C'est aussi à ce moment-là qu'il officialise l'annexion de plusieurs régions d'Ukraine.
Chers citoyens russes, vous savez que dans les républiques Donetsk et de Luhansk, dans les régions Zaporizhia et de Kherson, les référendums ont eu lieu. Les gens ont fait leur choix, un choix sans équivoque. Aujourd'hui, nous allons former quatre nouvelles régions russes, quatre nouveaux sujets de Fédération de Russie, puisque c'est la volonté des millions de personnes.
Vladimir Poutine, qui estime que l'Occident est en train de s'effondrer.
Dans les conditions actuelles, des conflits se dégradent et de nouvelles menaces apparaissent. Nous devons donc former un ordre du monde plus juste. Cela est lié au problème de l'hégémonie actuelle de l'Occident, qui est en train de s'effondrer. Nous en voyons les conséquences.
L'Occident s'effondre, selon le président russe. Une analyse démontée à l'époque sur BFM TV par l'eurodéputé Bernard Guetta, ancien correspondant du journal Le Monde à Moscou.
Depuis le 24 février, puis le début de l'invasion de l'Ukraine par ses troupes, M. Poutine a réussi à unifier comme vraiment rarement, en tout cas comme jamais depuis la fin de la guerre froide, l'ensemble des démocraties occidentales. Il a rapproché les deux rives de l'Atlantique, les États-Unis de l'Union européenne. Vraiment, on l'entend et on se dit, mais est-ce qu'il vit sur une autre planète? Est-ce qu'il est complètement aveugle? Est-ce qu'il est complètement imbécile? Je ne sais pas.
Deux ans plus tard, la guerre est toujours en cours. Les pertes humaines sont considérables, même s'il est impossible de connaître les chiffres exacts. La détermination de Vladimir Poutine, elle, reste intacte. Dès février 2023, il accuse l'OTAN de participer au conflit.
Les Occidentaux envoient des dizaines de milliards de dollars d'armes à l'Ukraine. Alors oui, dans ce sens, l'OTAN participe évidemment au conflit.
Dans le journal Le Monde, Benoît Victine, correspondant du quotidien à Moscou, écrit ceci. Aujourd'hui, l'armée russe avance, l'économie résiste, l'opposition est décapitée, l'élite tient. Et le chef de l'État s'est depuis longtemps convaincu que son peuple le suivrait jusqu'au bout. Écoutez Jérémy Normand, envoyé spécial de BFM TV à Moscou.
Effectivement, si l'on s'en tient aux chiffres, Poutine apparaît renforcé à l'issue de cette élection. 87%, jamais le maître du Kremlin ne s'était accordé un tel score. C'est 10 points de plus que lors de la dernière présidentielle en 2018. Il a fait tomber également un autre record. S'il va au bout de ce cinquième mandat, il dépassera le record de longévité à la tête du pouvoir, détenu jusqu'ici par un certain Joseph Staline.
Après son succès électoral, Vladimir Poutine pourrait accroître encore un peu plus son effort de guerre. Il semble en tout cas disposer plus que jamais d'un pouvoir sans limite. Des élections et un pouvoir qui ne sont qu'un simulacre, selon Marie Novski-Anikova, journaliste russe, réfugiée en France et opposante au régime de Poutine.
Les résultats ne sont pas vrais, les vrais candidats n'ont pas pu se présenter. Et le principal message maintenant, que la réponse de l'Occident doit être la suivante, que ce ne sont pas les élections légitimes, ce sont des fake élections, fausses élections. Et il faut que la communauté internationale ne reconnaisse pas le président Poutine comme président légitime.
Le Kremlin, qui en ce 18 mars s'est félicité, je cite, de la réélection triomphale de Vladimir Poutine. Le porte-parole de la présidence a ajouté ceci. C'est une confirmation éloquente du soutien de la population de notre pays à son président. Bonjour Ulysse Gosset.
Bonjour.
Éditorialiste politique international à BFM TV, ancien correspondant à Moscou. Vladimir Poutine a été réélu dans un fauteuil, on peut le dire comme ça. Il met en garde les pays de l'OTAN contre un risque de troisième guerre mondiale. J'aimerais d'abord qu'on revienne sur ce scrutin. 87% des voix, est-ce qu'on peut vraiment parler d'élection?
Alors c'est une élection effectivement qui a suivi la loi de la Fédération de Russie, les règles électorales. Mais c'est une élection qui n'est pas démocratique du point de vue européen. Et d'ailleurs plusieurs pays, plusieurs capitales, occidentales, européennes, ont dénoncé des élections qui n'étaient pas libres et démocratiques. Mais c'est une élection qui a eu lieu en Russie et qui a vu un score très important, beaucoup plus qu'il y a 6 ans, plus de 10 points donc, pour Vladimir Poutine, qui a obtenu finalement un score de dictateur, pourrait-on dire, un score à la soviétique, et donc une forme de plébiscite. Alors, bien entendu, avec les conditions que l'on connaît de la Russie, c'est-à-dire un régime qui ressemble à une dictature ou à une démocrature, comme on aime le dire, avec donc pratiquement pas d'opposition, des candidats, trois candidats qui sont opposés à Poutine, mais qui sont tous finalement d'accord avec lui sur la guerre, en particulier en Ukraine. Un ancien était un membre du FSB, l'autre est membre du Parti communiste, et ils n'ont fait que quelques pourcents de toute façon. Mais Poutine avait besoin de ce résultat, visiblement, pour mieux légitimer son pouvoir et surtout pour mieux poursuivre la guerre en Ukraine. Et ce plébiscite lui permet, finalement, il a les mains assez libres, et il lui permet d'aller dans le sens où il veut. Est-ce qu'il va en profiter pour accentuer encore la guerre ou est-ce qu'il va prendre son temps? On le verra. Mais en tout cas, avec ce résultat, il peut dire, urbi et orbi, aux Européens, aux Occidentaux, comme au Sud global, je suis installé dans mon fauteuil de président et j'agis comme finalement la Constitution le prévoit, c'est-à-dire j'ai tous les pouvoirs.
Il a très vite reçu les félicitations de la Chine, de la Corée du Nord, d'autres pays en Amérique latine. Ça veut dire quoi? Qu'il montre aussi au reste du monde sa toute puissance?
Ça veut dire qu'il y a deux mondes, hein. Encore une fois, le Sud global et le monde occidental. Et dans le Sud global, c'est-à-dire en Chine, au Brésil ou en Inde, eh bien, on n'a pas forcément la même vision que les Européens sur ce qui se passe en Ukraine. Et on continue à faire du business. Et en ce qui concerne la Chine, ça reste le principal allié de la Russie. Alors certes, aujourd'hui, Poutine est un peu l'obligé du président chinois Xi Jinping. Il est très dépendant de l'économie chinoise, ça c'est évident. Il est dépendant même de pays comme la Corée du Nord, qui lui ont livré 1 million d'obus, ou de l'Iran. Bref, tous ces pays qui sont des dictatures, hein, comme la Chine, comme l'Iran, comme la Corée du Nord, finalement s'entendent bien avec Vladimir Poutine. Et surtout, dans leur face-à-face avec l'Occident, elles forment un camp qui est important et avec lequel il faut compter.
En 2007, il est désigné homme de l'année par le Time, l'ordre avant la liberté. Le magazine américain parle de cet homme d'acier et déterminé qui a ramené la Russie à la place de la grande puissance mondiale. C'est comme ça qu'il est vu aujourd'hui, Vladimir Poutine, quasiment 20 ans plus tard.
En Russie, il est perçu comme l'homme qui a restauré la puissance de la Russie après la chute de l'URSS en 1991, après la période chaotique de Gorbatchev, de Yeltsin. C'est l'homme qui a fait effectivement régner l'ordre, quel qu'en était le prix, en n'hésitant pas à faire la guerre en Tchétchénie, en réprimant les opposants et en faisant la guerre en Ukraine, et surtout en annexant la Crimée et en annexant 20% du territoire de Géorgie. Donc oui, aujourd'hui, c'est un homme de fer, qui a besoin de la guerre pour se maintenir au pouvoir. On l'a vu avec la tentative de coup d'État du mercenaire de Wagner, Prigojine, qui est monté sur Moscou et qui finalement s'est arrêté et a été éliminé quelques mois plus tard. On peut dire que Poutine a aujourd'hui renforcé son emprise sur la Russie et qu'il a tous les moyens de renseignement militaire et autres pour continuer à garder le pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas demain une surprise, on ne peut pas l'exclure. Mais il est possible qu'il soit là jusqu'en 2030, et peut-être même au-delà, puisque la Constitution lui permet...
Il a changé la Constitution.
Et elle lui permet d'aller jusqu'en 2036. Et c'est intéressant, parce que ça veut dire que s'il va jusqu'en 2030, il aura battu Staline, le petit père des peuples, dans le record de longévité, et il s'approchera de Catherine II, la grande impératrice, qui restait 34 ans au pouvoir.
Est-ce que l'on sait exactement ce que pense, ce que ressent le peuple russe? Alors, on fait une généralité, bien sûr, mais on voit ce chiffre de 87%, et en même temps, on sait que la répression est omniprésente. Est-ce qu'on sait vraiment ce que ressent le peuple?
Il y a plusieurs Russies. Il y a la Russie des villes, des grandes villes comme Saint-Pétersbourg, Moscou et d'autres. Il y a la Russie des campagnes, il y a la Russie de l'Extrême-Orient. L'opulence des villes n'avait rien à voir avec ce qui se passait dans les campagnes. D'abord, il faut voir qu'il y a plus d'un million, 1 à 2 millions de Russes qui ont quitté, qui ont émigré, qui ont choisi l'exil après le début de la guerre. c'est la plus grande émigration depuis la révolution de 17, et c'est beaucoup plus qu'en 1917. Donc ça, on sait que ces Russes-là ont voté avec leurs pieds. Ensuite, il y a effectivement une bonne partie de la Russie, je pense que c'est la majorité des Russes, qui finalement préfèrent fermer les yeux, qui préfèrent le statu quo. Et au fond, que ce soit Poutine ou quelqu'un d'autre, ces Russes-là ne veulent pas entendre parler. Ils savent ce que c'est qu'une dictature. Et donc, ils choisissent de continuer à vivre le mieux possible, le moins mal possible, ça dépend, pour pouvoir finalement continuer à exister. Et c'est sans doute pour cela que ce vote est si important, parce qu'il y a une bonne partie de la Russie qui préfère s'en laver les mains, d'une certaine manière, qui ne veut pas retourner dans une période d'incertitude comme en 91. Et puis, il y a aussi une Russie très nationaliste, c'est-à-dire il y a une frange de 20 à 30% de la population qui est sur les lignes les plus dures, qui veut effectivement reconquérir l'Ukraine et qui considère que la Crimée, comme l'Ukraine, ça fait partie de la Russie.
Lorsque l'on voit Vladimir Poutine et Emmanuel Macron en 2017 être assez proches, en tout cas en façade, hein, est-ce que c'était une stratégie de la part de la Russie ?
Poutine a menti et a trompé Emmanuel Macron. Il lui a fait croire beaucoup de choses. La meilleure preuve, c'est que quand Macron l'a vu à Moscou lors de ce fameux voyage, avant la guerre, il a dit à Emmanuel Macron mais que non, il n'envahirait jamais l'Ukraine. Quelques jours plus tard, l'Ukraine était envahie. Mais le président français a voulu quand même continuer à dialoguer avec Poutine. Et il avait eu cette formule qui restera dans l'histoire, qui est « il ne faut pas humilier la Russie ». Mais on a vu finalement, au fond, que cette volonté de dialoguer, de trouver des compromis n'a pas du tout fonctionné. Et donc, on a assisté à un revirement radical d'Emmanuel Macron, qui est aujourd'hui l'un des principaux opposants de Vladimir Poutine, qui est un peu le leader européen du soutien à l'Ukraine. Même plus engagé, je dirais, que les Américains et presque autant que les Polonais et les Pays-Baltes.
Donc, il n'a pas le choix, finalement,
Macron ?
Oui.
On a toujours le choix, mais en fait, il a compris que si on n'avait pas une position de force à l'égard de Poutine, il n'y aurait pas de dialogue possible. Et que face à un dictateur, il faut être très fort, il faut être très sûr de soi, il ne faut pas changer d'avis. La seule question, c'est est-ce que Macron a les moyens d'exprimer justement cette position au-delà des déclarations, mais d'avoir le soutien de toute l'Europe et de garder une Europe unie autour de ses positions, ce qui est très difficile et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, même si on voit que les positions évoluent et qu'il y a des pays qui soutiennent, par exemple, l'hypothèse, même si ce n'est pas pour l'instant prévu, d'envoyer des troupes au sol. Donc, il y a une évolution, il y a une prise de conscience et il y a surtout une inquiétude en Europe qui fait qu'on se demande jusqu'où ira Poutine.
C'est ma dernière question. Militairement, aujourd'hui, il brandit, il l'a déjà fait, la menace de l'arme nucléaire. C'est quoi ? C'est une menace ? C'est la guerre froide ? Il bluffe ?
C'est aussi de son côté une forme d'ambiguïté stratégique. C'est-à-dire, il en parle un peu trop, sans doute, parce que ça suscite de l'inquiétude. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est problématique. Mais pas forcément pour l'utiliser. Simplement pour rappeler que si l'objectif des Occidentaux, c'est de détruire la Russie de Poutine, il faut qu'ils sachent que s'il y a une menace existentielle qui pèse sur la Russie, il peut y avoir un usage de l'arme nucléaire. Mais on n'en est absolument pas là.
Merci beaucoup, Lise Gosset.
Merci.
Merci d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Et merci à Eva Serraiol pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun numéro. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Le titre à la une, c'est également tous les soirs sur BFM Radio à 19h30.